A-t-on encore des raisons d'espérer ? Poser cette simple question en préambule pourrait passer pour une simple pétition de principe, tant la réponse semble évidente. Des raisons d'espérer ? Pas franchement. Nous baignons dans le désespoir. Bon, ça c'est dit. Ces quelques lignes introduisent l'ouvrage coécrit par Don Paul Préau, modérateur de la communauté Saint-Martin, et Tiphaine Néron-Bancel, philosophe. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Alors, tout d'abord, votre livre intitulé « La folle espérance » vient tout juste de paraître aux éditions du Cerf. Qu'est-ce qui a motivé ce livre et cette collaboration ?
Alors tout d'abord, on m'a demandé de faire une conférence pour les recteurs de sanctuaires en France, qui s'est faite dans le cadre du sanctuaire de Montligion. Et là, il y avait deux dominicains qui m'ont demandé, via les éditions du Cerf, de pouvoir écrire un livre dans le cadre du jubilé Pèlerin d'Espérance. Et pour moi, j'ai fait appel du coup à Tiphaine pour deux raisons. D'abord parce que Tiphaine connaît bien la littérature française, et je trouve que ça a un intérêt aussi de ne pas écrire simplement un traité un peu théologique et parfois un petit peu abstrait, mais quelque chose de plus incarné. Et puis la deuxième raison, c'est que l'éditeur m'a demandé, il faut que ce soit accessible. Et je trouve que c'est plus facile, quand on est dans un dialogue avec une personne, de nous rendre plus accessibles, parce qu'elle écoutait et je l'écoutais, on s'écoutait mutuellement avant de pouvoir écrire le livre.
Oui, l'intérêt d'écrire à deux, effectivement, c'était de pouvoir apporter cet autre regard, mes connaissances humaines, j'allais dire, que je puise dans la littérature, effectivement. Parce que la littérature représente une formidable caisse de résonance à toutes nos préoccupations, à tout ce que l'on vit. Et donc c'était une façon d'aborder le thème de l'espérance sous un angle peut-être plus terre-à-terre et plus
humain.
Plus humain,
ouais.
Voilà.
Et c'est bien, ce dialogue, effectivement, entre vous deux rend ce livre complètement accessible. Comme vous le disiez, Don Paul Préau, c'est très facile, c'est découpé par chapitres thématiques. À la fois, c'est très accessible et à la fois, ça peut permettre d'être infusé tranquillement aussi.
Oui. C'est la raison pour laquelle on n'a pas écrit chacun un chapitre. On a écrit à deux. C'est vraiment... Vous ne pouvez pas savoir qui a écrit quoi.
Non, j'ai cherché.
On l'a écrit à deux.
J'ai cherché.
Non, on aurait pu faire chapitre après chapitre, mais non.
Non, mais c'est vrai que là, comme ça le rend effectivement très accessible. Et le fait que ça soit émaillé de textes, de philosophes, d'auteurs, comme vous disiez, donc Paul, ça l'incarne. Donc je ne rajoute plus rien parce qu'on va en venir au vif du sujet. On ne va pas reprendre ce que vous évoquez dans l'introduction, récapituler toutes les raisons que l'on a de voir nos espoirs éteints. Mais on va peut-être préciser la distinction à faire justement entre l'espoir et l'espérance.
Ça, c'est une des richesses du vocabulaire français qu'on n'a pas dans les autres langues européennes. C'est que vous avez deux mots en français pour dire à la fois les espoirs, l'espoir avec un petit e, et puis l'espérance qui est vraiment un don de Dieu, une vertu théologale, l'espérance avec un grand e. Et qui sont proches, en fait, comme réalité, mais qui, d'un point de vue théologique et d'un point de vue spirituel, et même simplement en lisant l'Écriture, n'ont pas les mêmes contenus. La vertu d'espérance, c'est la vertu du désir, par laquelle on désire, comme notre propre bonheur, la réalité du ciel, la vie éternelle.
Et c'est ça qui est un petit peu parfois compliqué, parce qu'effectivement, des désirs, on en a plein.
Oui.
Mais en fait, il faut arriver à discerner ce qui va nous rapprocher du ciel, peut-être, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On est tous animés de grands désirs. On a même parfois du mal à savoir vraiment ce que l'on désire. Justement, la vertu d'espérance, elle vient purifier nos désirs. Elle vient les raviver pour les tourner, pour leur faire changer d'horizon. Souvent, on a des désirs qui sont bornés par l'horizon terrestre. Et l'espérance, justement, vient élargir ce désir et le tourner vers le ciel.
Vous disiez, donc Paul, que l'espérance est une vertu théologale, ça on sait. Ça veut dire que l'espérance, c'est aussi le devoir du chrétien, être rempli d'espérance.
C'est d'abord un don. Avant d'être un devoir, c'est d'abord un don qu'on reçoit par la révélation, mais aussi par la grâce du Seigneur. C'est entrer dans les vues de Dieu, c'est voir comme Dieu voit, et pas simplement à travers l'horizon terrestre, comme le disait Tiphaine. Et c'est aussi non seulement entrer dans les vues de Dieu, mais c'est attendre Dieu de Dieu lui-même. Parce que dans l'espérance, on n'attend rien de moins que d'être avec Dieu et de vivre de la vie de Dieu. Donc c'est en cela qu'elle est une vertu. Après, ça devient quelque chose que l'on doit mettre en place dans notre vie, que l'on doit protéger, un peu comme une petite flamme. J'ai beaucoup cette image de oui, puis de l'évangile aussi, tout simplement, aussi. Quand il dit, bien, tenez vos lampes allumées, cette petite lampe, c'est la foi, mais c'est aussi, tenez vos lampes allumées, c'est-à-dire alimenter cette petite flamme de l'espérance, parce qu'elle peut s'éteindre. C'est-à-dire que vous pouvez ne plus espérer, ne plus rien espérer. C'est un péché. Je distingue bien hein, la vertu d'espérance, dont le contraire serait la désespérance, qui est un péché, de la dépression, qui est un état psychologique. On peut très bien traverser soi-même une période de mou, avoir un coup de mou, voire une dépression psychologique. Ça, on le précise un peu. Mais et tout en ayant quand même la vertu d'espérance. Ce sont deux choses différentes. Souvent, on confond les deux. On confond la vertu théologale et l'état psychologique.
Vous avez tout un chapitre sur l'espérance malgré l'épreuve. Alors, c'est peut-être pas l'intitulé, hein, mais dans l'épreuve.
Oui.
C'est peut-être quelque chose sur lequel on peut passer un peu de temps parce que c'est particulièrement compliqué quand on a l'impression que rien ne va. Comment continuer à avoir cette petite flamme hein?
Dans le dialogue avec Tiffaine, je crois qu'on peut témoigner de ça, c'est que ce chapitre-là a été un sujet qui nous a demandé beaucoup de temps. Parce qu'on ne voulait pas faire du prêchi-prêcha et ni de l'eau de rose, ni de la mièvrerie, mais on voulait être en vérité. Et c'est pour cela qu'on est retourné à l'écriture, et en particulier à l'Exode, à la grande traversée là, du désert par le peuple hébreu, et d'en retirer le suc pour comprendre qu'est-ce que c'est que nous appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement désirer comme notre propre désir le bonheur du ciel, mais c'est aussi faire confiance dans les promesses de Dieu, dans les promesses du Christ pour nous, bien sûr, en tant que chrétiens. Et en ne nous appuyant pas sur nos propres forces, mais en nous appuyant sur les secours de l'Esprit Saint.
Et c'est à la fois aussi, vous le dites bien, ne pas se réfugier dans la peur, ne pas se réfugier seulement dans la révolte, même si ces états sont humains et compréhensibles. Mais tout effectivement, c'est dépasser ça. Ça ne veut pas dire les nier non plus.
Non, surtout pas, oui. Surtout pas, parce que les épreuves sont notre lot quotidien, on en traverse tout au long de notre vie. Et si on s'enferme dedans, effectivement, on risque de faire s'éteindre cette petite flamme qu'il faut absolument préserver.
Et la souffrance, elle n'est pas non plus à rechercher.
Bien sûr que
c'est
non.
C'est ce que vous dites.
Non, là, ça serait du masochisme. Hein. L'Église n'est ni masochiste, ni sadique. C'est-à-dire qu'on n'exalte pas la souffrance pour elle-même. Mais le grand mystère pour nous les chrétiens, c'est que Dieu, dans son Fils Jésus, a voulu connaître la souffrance, l'a traversée, il n'a pas fait semblant, hein, il l'a vraiment vécue dans son humanité, mais pour la transfigurer. Donc toute souffrance humaine, de quelque nature qu'elle soit, peut devenir le lieu d'une rencontre et le lieu d'une émergence de l'amour en particulier.
Et puis c'est ce que l'on dit dans le livre aussi, c'est à quel amour plus grand je suis appelé, je suis appelé à donner à travers cette épreuve. Alors c'est sûr, c'est pas simple à discerner et à recevoir comme appel, mais c'est vraiment ce que l'épreuve nous enseigne en fait.
L'amour de Dieu, mais aussi l'amour de nos prochains, puisque vous le dites aussi dans votre livre, hein, vous appelez au sens du collectif, hein, pour reprendre une terminologie un peu familière, hein, ce sens du collectif aussi dans l'espérance, il est important.
C'est très important parce qu'on aurait pu croire que la vertu d'espérance est une vertu assez égoïste. Je désire pour mon bien le ciel, mais pour moi. Donc on aurait pu croire qu'elle était auto-centrée, alors que c'est tout le contraire. La vertu d'espérance est une vertu qui nous ouvre aux autres, c'est espérer pour les autres. On ne peut pas espérer pour soi si on n'espère pas pour les autres, parce qu'on est tous ensemble appelés au salut. Il y a une dimension de communion là très fortement. C'est pour ça que dans le chapitre sur espérer pour les autres, on a insisté sur le fait qu'on est un, on n'est pas sauvé tout seul, mais on est sauvé les uns avec les autres, dans le Christ, et deux, que nous sommes sauvés, et nous avons à marcher ensemble. Alors, avec les saints du ciel, bien sûr, ceux qui nous ont précédés, mais aussi avec les frères et sœurs ici-bas, on marche avec eux dans le chemin du salut. Et ça, c'est très beau de se dire, je n'espère pas pour moi, j'espère aussi pour les autres. Et là-dessus, peut-être que celui qui nous a le plus inspiré, c'est le pape Benoît XVI. D'ailleurs, je le cite abondamment dans sa deuxième encyclique sur l'espérance, où il dit que nul n'est une île, une monade, mais que nous sommes faits les uns avec les autres pour marcher ensemble.
Et pour se transmettre dans cette émission Pèlerin d'espérance, pour se transmettre aussi cette espérance.
Bien sûr, le pèlerin ne marche pas tout seul. On n'est pas dans l'isolement, dans cette marche vers l'espérance. Nous sommes les uns avec les autres.
Et j'ajouterais aussi que c'est ce qui fait la différence aussi encore avec l'espoir. C'est que l'espoir, il est personnel. Chacun a son propre espoir, et à ses propres désirs qui lui sont vraiment propres, qui ne sont pas interchangeables avec ceux d'un autre individu et d'une personne, alors que l'espérance, elle est vraiment celle de tout un peuple, elle est celle de tous les chrétiens, elle est celle qu'on partage.
Encore une petite référence au peuple hébreu. S'il fallait noter peut-être quelques qualités à avoir pour pouvoir mettre en œuvre cette espérance dans notre cœur, à nous et puis en collectivité.
Moi je voudrais la confiance. C'est vraiment la vertu de la confiance, et je mettrai une deuxième qualité, la patience. Les deux vont ensemble. C'est avoir une confiance absolue que même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, ce que je vis, ce que je suis appelé à traverser, faire confiance que il y a une victoire du Christ qui nous est déjà donnée. Et puis la persévérance, c'est un peu comme le veilleur. Il sait que le soleil va se lever, donc il attend. C'est encore dans la nuit, il attend, mais il sait que ça va venir.
C'est ce que vous dites à la fin aussi, hein, rester en tenue de service.
C'est ça.
Vous avez encore une phrase, hein, peut-être chacun, si vous voulez, pour nous appeler davantage à cette espérance ou à la mettre en œuvre concrètement dans nos vies.
Moi, je dirais que l'espérance, on la puise dans la prière, qui est vraiment le lieu de l'intimité avec Dieu. J'aurais ajouté à la question précédente l'humilité, parce que dans l'espérance, c'est pas nous qui nous donnons les propres termes de notre vie, c'est pas nous qui décidons comment est-ce qu'on va faire pour y arriver. C'est vraiment, comme le disait Don Paul tout à l'heure, quelque chose que l'on reçoit. Donc c'est pas sur ses propres forces qu'il faut compter, donc encore une fois, voilà, c'est dans l'humilité et dans la prière qu'on peut se nourrir de l'espérance. Voilà.
Et moi j'ajouterais que ce qui m'a le plus marqué en creusant et en priant sur cette vertu d'espérance, c'est que en fait Dieu élargit nos horizons et que le Dieu en quel nous croyons est un Dieu d'espérance. Parce qu'il veut nous voir surabonder dans l'espérance. Le mot, c'est la signature de Dieu pour moi, c'est que Dieu veut toujours nous donner des choses en abondance. Dieu n'est pas pingre dans ses dons. Il se donne totalement, mais pour nous faire entrer dans une plénitude. Et chaque étape de notre vie, c'est appelé à la surabondance. Et c'est ce que dit Paul aux Romains, figurez-vous, dans le chapitre 15, « Afin que par la vertu de l'Esprit Saint, vous abondiez. » Vous voyez, il y a une surabondance de la vertu, vous abondiez dans l'espérance. Et ça élargit énormément nos horizons intérieurs et peut-être même terrestres.
Merci beaucoup, Tiphaine Néron-Bancel et Don Paul Priot, respectivement philosophe et mayonnaise, hein, et d'adoption au moins, et Don Paul Priot, modérateur, hein, général de la communauté Saint-Martin, de cette invitation.
Merci,
à
Isabelle.
Cultiver cette folle espérance, hein, c'est le titre de votre ouvrage paru en février aux éditions du Cerf, donc à cultiver cette espérance et avec presque des petits moyens pratiques, je répète, hein, c'est très accessible et à la fin de chaque chapitre, hein, qui est très, très bien découpé, il y a des petites
questions,
des petits tips, hein, mm-hmm, et des petites questions.
Qu'on peut reprendre à son propre compte, voilà, c'est ça pour approfondir la réflexion.
Alors merci beaucoup à tous les deux.
Merci Isabelle. Isabelle.